avions vu comment la figura, la figure, la physionomie, c'est un terme assez vaste. On pourrait dire le style aussi, le style d'une personne. On a tous un certain style. Et tout ça, ça fait partie de la figure. Ça fait partie de ce que, comment la substance, comment mon âme se manifeste. Et c'est pour ça qu'on peut dire que, d'une certaine façon, l'âme se manifeste à travers la figure, de sorte que dans la figura, il y a le mélange de l'atavisme et de la personne, de l'atavisme corporel et de la personne. Dans une famille, on est de la tendance du père ou de la tendance de la mère. Il y a deux atavismes. Et on sait qu'ils sont unis, qu'ils se combinent ou qu'ils s'opposent. Et cette union ou cette opposition se manifestera dans la figura. À ce point de vue-là, la figura est particulièrement importante et intéressante. Parce que non seulement elle manifeste le point de vue de l'union du corps et de l'âme, mais dans le corps, elle manifeste les deux fleuves qui tous les deux, font un individu nouveau, typique. Donc, la figura est sûrement un moment très important parce que il montre comment la fumerie, au fond, si on la pousse jusqu'au bout, sera comme une manifestation de la métaphysique. C'est la métaphysique qui, en dernier lieu, peut seul expliquer la figura. La phénoménologie restera très fort dans la figura. Oui, c'est là son lien avec l'art. Et c'est pour ça qu'elle a tant de charme et qu'elle acquiert si facilement notre consentement et que facilement on reste dans la phénoménologie. Le logos de la propriété et de l'accident dominant. En fait, le logos, on essaie de saisir l'intelligence de ce qu'il y a de synthétique dans les accidents propres à l'homme. C'est sûr que le visage de l'homme est propre à l'homme. Beaucoup plus que le visage. On ne dit pas du reste le visage, mais la physionomie du chien, sa gueule. Que j'ai aimé beaucoup d'un jeune officier que je connaissais bien, qui était parti pour l'Indochine et qui est mort du reste en Indochine, et qui était officier de la Légion. La Légion étrangère. Il aimait ses légionnaires comme un père à ses enfants. Ils avaient complètement adopté. Et donc, il était l'officier. Mais quand ses légionnaires travaillaient dur, il travaillait avec eux. Et alors, à ce moment-là, il se mettait en petite tenue, comme ses légionnaires. Et alors, le commandant est passé et l'a interpellé et dit « Et les galons, comment on verra l'officier ?» Et alors, il a crié à sa gueule, commandant. C'est exactement ça, le figurant. Vous voyez, l'aspect formel. L'officier doit garder ses galons, doit garder sa tenue, doit toujours tenue, pour qu'on puisse le reconnaître. Alors là, évidemment, on le reconnaît. On le reconnaît à l'habit, et non pas à la gueule. Et sa gueule, c'était sa manière d'être. Il a une autre manière d'être. Alors, c'est quelque chose de très difficile à préciser. Parce que c'est multiple, c'est pas simple, c'est descriptif. Une très bonne description, une description artistique, philosophique, saisira justement ce qu'il y a de spécial dans la gueule de tel, tel, tel. Il y a un petit quelque chose d'unique. Et quand on connaît l'ami, on reconnaît ça tout de suite. On arrive à reconnaître dans l'ami sa manière d'être, sa manière d'opérer, sa manière de saisir une situation quand la situation devient pénible et dure. Il réagit autrement. Ça ne se commande pas, ça. C'est ça qui est très curieux. C'est pas codifiable. On aura instinctivement et aussi rationnellement sa prudence. Notre prudence commande à notre corps. Hein. Notre prudence fait que le potentiel de notre corps est plus ou moins utilisé. Et c'est tout ce potentiel, cette virtualité du corps actué et qui s'actue différemment. Et dans une manière complexe et synthétique. C'est très synthétique, la figure. C'est dans l'ensemble une unité. Et l'unité spéciale, puisque la substance, elle est source de toute unité en nous. C'est notre âme qui est source de toute l'unité de nos activités. Et qu'il faut que toutes ces activités relèvent bien d'une seule personne. Oui, l'influence. Pourquoi certaines personnes ont un rayonnement, d'autres personnes n'en ont pas du tout. C'est un fait, ça. Ça se touche, ça se voit. Et ceux qui n'en ont pas, en sec, sont toujours plus ou moins jaloux de ça. Qu'est-ce que vous faites? Comment faites-vous? On a envie de dire, je n'y ai jamais pensé. Et c'est vrai. Parce que dès que vous y pensez, ce n'est plus la figura. Ça devient un certain style. Voyez, le style personnel est la figura. le style personnel, on ne l'étudie pas. Ceux qui suivent l'étudieront, essaieront d'imiter. Alors, dès qu'on imite, on essaie de saisir comment faire, qu'est-ce qui est imitable. Parce qu'au fond, ce qu'il y a de propre à cela n'est pas imitable. Ça relève de la personne. Ça relève de la substance. Ça relève de quelque chose d'unique qui s'enracine dans son être. Et c'est quelque chose qui se manifeste dans une très grande simplicité et une très grande cordialité. Il y a des personnes qui vous mettent à l'aise. Il y a des personnes qui vous glacent. Alors, c'est aussi une physionomie de glacer quelqu'un. Le percepteur d'impôts, au bout d'un certain temps, prend la physionomie du percepteur d'impôts. Je me souviens, j'ai fait une fois l'autostop et je suis tombé sur le percepteur d'impôts. Alors, il m'a fait cette remarque, hein, voyant bien qui j'étais. Il m'a dit, est-ce que Dieu doit être imposable d'impôts? Ça, c'est une idée d'imposable d'impôts. Je vais penser à ça. Oui, parce qu'il a tellement de serviteurs. Et si vous avez beaucoup de serviteurs, vous êtes imposable. Or, comme Dieu a des quantités de serviteurs, comme il est imposable. Vous voyez, ça ne peut venir que d'un imposeur d'impôts. Alors, la fonction, crée petit à petit une mentalité. Là, il y a la mentalité, mais la vie des oies crochues. Aussi, c'était très sain. On avait l'impression qu'il voulait prendre. C'est parti de la physionomie. Et ça se réalise jusque dans la main. C'est pas uniquement la figure. Ou dans le pied. C'est très particulier. Ça prend tout le corps. La figure. Alors, le fondement de la figura, le fondement, c'est la quantité. La quantité, d'une certaine manière, est l'anti-figura. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quel est l'aspect matériel de la figura. Il est évident, la figura de quelqu'un qui pèse 110 kilos est différente de la figura de celui qui pèse 60 kilos. Pour un homme fait, et il y a une certaine quantité qui ne peut plus être formalisée par la figura quand la quantité est trop forte. Et quand la quantité dépasse, elle vient alors quelque chose qui s'impose. Et c'est vrai, quelqu'un qui est d'une telle grosseur, ça s'impose. Oui, surtout quand on est en avion. Ça s'impose. Et ça se supporte difficilement. Parce que on est côte à côte. Et rigoler, les places sont faites pour une quantité normale. Quand vous êtes assis à côté d'une figura qui ne paraît pas entièrement animée, c'est-à-dire que la quantité dépasse le point de vue de la figura. Vous sentez qu'il y a quelque chose d'anormal et pas très humain. C'est pour ça que c'est pesant. C'est pas très humain. Même pour les animaux, et pour l'homme encore beaucoup plus. Je crois que c'est pour l'homme que c'est le plus gênant. Vous voyez ? Alors, c'est ça qui nous permet de comprendre qu'est-ce que c'est que la quantité. C'est le support ontologique de la figura. La figura, c'est à travers la quantité qu'elle se manifeste. Et la figura sera toujours la victoire de la forme sur la quantité. Il y a comme une espèce de rivalité et de lutte entre la figura et la quantité. Et quand la quantité dépasse, elle devient informe. Et uniquement c'est la quantité. Quand la figura est suffisamment puissante, elle s'impose. Un homme très grand, qui a énormément de caractère, c'est très supportable et c'est même très beau. Mais il faut qu'il ait beaucoup de caractère. S'il est très grand et que ça a poussé trop vite et que le caractère n'est pas correspondant à la puissance quantitative, on est près d'un monstre. Oui, c'est ça le monstre. Hein. Le monstre, c'est quand la quantité est victorieuse de la qualité. Vraiment, vous êtes en face d'un monstre. Parce que c'est quelque chose qui est pénible à supporter. Le monstre est pénible à supporter. Parce que c'est pas normal pour l'homme. L'âme doit être victorieuse de la quantité. Pourquoi une grosseur excessive est lourde à porter pour celui-même qui est insupportable. Parce que justement, il y a la victoire de la quantité sur la qualité. Et chaque fois que la quantité l'emporte sur la qualité, vous avez quelque chose de monstrueux. Et quelquefois, c'est à grand format et petit format. C'est pas une question de grandeur en soi. Non, il y a comme une espèce d'harmonie entre qualité et quantité. Et que toujours la qualité doit l'emporter sur la quantité. Toujours. Quand la quantité, peu importe la dimension, hein, peu importe le poids, des gens de grand poids, une quantité très grande, mais il y a une qualité qui fait que ce n'est pas démesuré. Vous voyez ? Et le mot même, quand c'est démesuré, c'est tout à fait la quantité qui l'emporte. Parce que qu'elle n'est plus entièrement finalisée. C'est ça qui est peut-être très important à voir. Parce que ça nous permet d'avoir un exemple de quelque chose qui n'est pas finalisé. Quelque chose qui n'est pas finalisé au point de vue moral. Bon, l'homme vertueux le sent tout de suite. Mais comme il y a peu d'hommes vertueux, ça passe. Tandis que quand ça se voit, ça passe moins bien. Parce qu'on voit. Il ne suffit pas de le savoir et de le connaître. Il y a une démesure. La quantité est source, elle, de démesure. Ça déborde. Et ça déborde le vase. Quand vous mettez de l'eau dans un vase et que le vase est plein et qu'il déborde, ah, vous voyez, c'est démesuré. Et vous continuez à mettre le robinet qui donne de l'eau. C'est demi-muré, ça coule dessus. Il y a ce rapport de la figura et de la quantité qui est très important. Parce qu'au fond, ce rapport des deux montrera quelque chose de très subtil de la substance. L'unité de la substance avec la quantité devient divisible. C'est très curieux. Le passage de l'unité, donc de l'indivisible, avec le divisible. Or, cela, nous pouvons le constater. On a quelque chose qui nous permet de constater ce point de vue de l'indivisibilité de la substance dans la figura. Et comme cette substance est reçue dans un corps, elle devient divisible. Le corps rend divisible la substance. Pas la substance directement, mais la manifestation de la substance. La manifestation de la substance devient divisible. Et par le fait même, elle peut très facilement apparaître comme désordonnée. Justement, ce divisible est tellement massif, tellement puissant, tellement fort qu'il s'impose. Ça va très loin, cette constatation, parce que nous pouvons la pousser jusque dans l'ordre moral. L'analogue au divisible dans l'ordre moral. C'est le souci d'apparaître puissant. D'apparaître puissant. La quantité permet l'apparition. Il n'y aurait pas de manifestation s'il n'y avait pas la quantité. S'il n'y avait pas ce divisible. C'est pour ça que c'est si curieux. Et c'est si curieux de le voir naître. Et quand vous voyez un gosse qui grandit, tout petit enfant qui grandit, c'est charmant, il grandit harmonieusement. Mais Mais il y a toujours un âge bête. C'est très connu qu'on appelle ça un âge bête. C'est lorsque la quantité dépasse la qualité. Alors, ça fait quelque chose d'idiot. Ça fait quelque chose de démesuré et qui ne va plus. Il pourrait y avoir exactement la même quantité chez un autre chez qui la physionomie, la qualité est devenue suffisamment éloquente, suffisamment, elle se manifeste suffisamment pour que chez lui ce ne soit pas du tout ridicule. Oui, c'est un petit peu quand vous devez porter un habit qui est trop grand. Alors ça flotte. Et ce n'est pas beau. Ça se voit. L'habit n'est pas habité. Et il est habité quand il correspond au corps. Alors là, il est habité. C'est vrai, vous avez la même expression constamment, si j'ose dire. Je me souviens d'avoir visité un château, je ne dis pas où, parce que c'est pas la peine de préciser, un vieux château qui a eu sûrement sa gloire. Et c'était à ce moment-là mesuré. Mais alors, il y avait la cuirasse de l'ancêtre, des ancêtres, à toutes les marches. C'était complètement démesuré. Et ce château est devenu comme un musée de l'armure. Alors, c'est bien quand c'est un musée, mais quand c'est un château, ça ne va pas. Il y a une démesure. Quand on dit, mais c'était ridicule. Le premier aspect qu'on voit ça, on éclate de. Si on est à deux, on éclate de rire. Si on est seul, on maintient encore le sourire. On sourit seulement. Mais dès qu'on est à deux, le sourire se multiplie. Et, ça veut dire. Et le sourire change la physionomie. Et l'éclat de rire, et c'est la physionomie à deux. Oui, qui, au fond, ne supporte pas. C'est extrêmement curieux. Nous ne supportons pas l'excès de la quantité. La quantité pour la quantité, c'est impossible à accepter. Alors, ça, je crois que c'est très important. Et le voir dans la racine, avec le fondement ontologique. De voir que la quantité, le mesurable qui n'est pas mesuré et qui s'étend par lui-même, il n'est pas désagréable parce qu'il a son genre, il est mesurable. Mais lorsque il vient détruire la figura avec le petit combat de l'extension, de la grandeur et de la figura, et quand il détruit la figura, il devient insupportable. Et cela à tous les niveaux. Hein. Oui. Au point de vue philosophique, on appelle la quantité virtuelle, qui n'est pas la quantité, mais qui est le même phénomène au plan spirituel. Au plan spirituel, il y a une quantité virtuelle, c'est la puissance, c'est la domination. La puissance et la domination n'ont rien de qualitatif. Hein. Alors la puissance et la domination, quand sont dominés par l'intelligence, par l'amour. C'est très tolérable et c'est même beau. Vous voyez, le phénomène de la beauté qui apparaît. La beauté physique, la beauté spirituelle, c'est cette harmonie entre les deux. Cette harmonie entre le divisible et la qualité. La qualité en elle-même est indivisible. La qualité propre, les sensibles propres, c'est indivisible. Alors, c'est la lutte entre le divisible quantitatif et l'indivisible, la fine pointe, qui est au fond la finalité. La finalité est toujours indivisible. C'est en ce sens-là qu'elle séduit, qu'elle nous fait nous dépasser. Il y a quelque chose de très particulier. Tandis que le divisible et le divisible virtuel, la quantité, quand elle n'est pas mesurée, quand elle s'étend de trop, ça devient insupportable. Oui, quand elle étouffe la détermination, la figura, parce que la figura peut être détruite par la quantité. C'est une bataille souterraine et très profonde, celle-là. Nous sentons tous ça pour chacun d'entre nous. Et voyez, l'équilibre des deux provient de la substance, provient de l'âme qui informe le corps. L'âme qui informe le corps devient par le corps divisible. Mon âme, elle est dans mon corps, elle est dans mon bras, elle est dans ma main, elle est dans mes doigts, mon âme. C'est sûr. L'âme habite la quantité. L'âme se revêt de la quantité et se manifeste grâce à la quantité. Autrement, elle serait indivisible et impalpable. Tandis que par la quantité, elle est divisible. Mais la quantité est faite pour la qualité. La quantité n'est jamais finalisée par elle-même. Et quand, justement, elle s'impose, ça devient ridicule. C'est le petit chat qui veut devenir aussi gros que le lion ou la lionne. Tandis que le petit pygmée, c'est très bien. Il est un petit pygmée, mais il dépasse et supprime son infériorité par son intelligence. Oui, toujours combat qualité-quantité. Et ce combat, nous le portons en nous, hein. Portons nous le point de vue formel de la substance de notre âme qui s'exprime et se manifeste dans la figura, et nous portons en nous la pesanteur de notre corps, la grandeur de notre corps qui est mesurable, qui est divisible. Alors, c'est ce divisible qui, lorsqu'il n'est pas actué, quand il n'est pas mesuré, devenir énorme. Et devenant énorme, il devient insupportable. Il devient insupportable, il devient ridicule. Quand de fait, il se présente lui-même sans la forme. Il veut s'imposer et passer avant la forme. La première détermination, hein, c'est la détermination dans la quantité. La première pour nous, selon l'ordre d'origine. La première détermination, elle est dans la quantité. Et elle se réalise dans le divisible. Donc c'est toujours une détermination relative. Dans le divisible, vous êtes toujours dans le relatif. La forme est relative. C'est-à-dire, au fond, la forme, elle est dans un état de très grande petitesse. La quantité diminue la forme. Elle peut arriver même à diminuer la forme d'une façon tellement forte que la forme ne se voit plus. Le divisible, la petitesse, ce qui s'impose le moins, mais qui étouffe. Et je crois que la quantité, quand elle se manifeste elle-même comme quantité, elle étouffe. Et elle annihile la forme. Et avant de l'annihiler, elle la relativise. Le pouvoir de la quantité, c'est de tout relativiser. C'est comme ça que la quantité s'impose. Parce que si c'était simplement la quantité et directement la quantité, elle ne s'imposerait pas. On dirait, regarde-toi. La quantité n'a rien pour imposer. Mais en relativisant la forme, elle envahit. Elle diminue la forme. Elle diminue le pouvoir de la forme. La forme, par la quantité, se relativise. C'est très curieux, cela. Nous possédons en nous la possibilité de relativiser notre physionomie. Au contraire, de l'augmenter. Nous possédons en nous ça. Et nous le possédons sous cette forme très simple que la quantité en nous s'impose plus ou moins. Et on peut arriver à faire qu'elle s'impose très peu. Que vraiment, elle est dominée par la forme. La forme, ça vient toujours de la substance. Parce qu'au fond, la quantité, elle permet à la matière d'être informée. La matière est trop brutale pour être en contact avec la forme. Elle est en contact avec la forme par la disposition. Et la disposition implique la quantité. Alors, à ce moment-là, la bataille commence. Tandis que la matière, comme matière, elle s'impose toujours brutalement et la forme l'évite. Alors, vous voyez, comment la quantité peut devenir au service de la quantité. Quand elle est au service de la quantité, et quand elle est au service de la matière, je veux dire, quand elle est au service de la matière, vous avez une victoire de la quantité. Et dans tous les domaines, hein, autrement dit, vous avez trois domaines qu'il faut essayer de bien comprendre leurs relations. Vous avez la matière, la quantité, la figura. Et il faut presque les voir toujours ensemble. La matière et forme, je veux dire, la quantité est forme de la matière. La première forme de la matière, c'est la quantité. Alors, elle civilise la matière. La matière, comme matière, est brutale. Propé nihil, proche de rien. Et quand elle est victorieuse, la matière, elle proclame le néant. Comme dans Sartre. Mais la première forme, donc, la première manière de civiliser la matière, c'est la quantité. Par la quantité, je peux dompter la matière. Je peux l'éduquer. Mais la matière doit être elle-même déterminée par la qualité. Et ça fera la figura. Et quand la quantité est trop forte et trop puissante, la figura tend à disparaître. C'est même vrai pour une figure. Quand on a quelqu'un en raison des médicaments, et la figure se gonfle, il est bouffi. Toute la figura tend à disparaître et la quantité augmente. C'est très, très curieux. C'est pas drôle, du reste, pour celui qui le subit. Il sait, il prend un médicament qui Laurent bouffi. Qu'est-ce que ça veut dire bouffi au point de vue métaphysique? C'est la figura qui est vaincue par la quantité. Et c'est la quantité qui a fait, ça. Alors, c'est très intéressant à étudier parce que c'est la perte de la détermination et c'est l'indétermination de la quantité qui l'emporte. Alors vous voyez, la quantité, on a souvent besoin d'un plus petit que soi pour dompter la matière. Il faut la quantité. Pour dompter la quantité, il faut la figura. Pour dompter la figura, il faut la substance. Alors vous remontez comme ça, de détermination, détermination, et de finalité, finalité. Ce qui finalise la matière, c'est la quantité. Ce qui finalise la quantité, c'est la figura. Ce qui finalise la figura, c'est la substance. Ça nous aide beaucoup à bien comprendre la réalité physique, le monde physique. Le monde physique est pour nous un monde quantitatif. Et nous sommes au milieu de ce monde physique où la quantité risque toujours de l'emporter. Et un torrent à la place d'un fleuve calme. Quelle différence? change, y a-t-il ? C'est que la quantité a augmenté démesurément. Et c'est déjà un torrent. Et le torrent a une puissance d'envahissement, de renversement. C'est brutal. C'est la brutalité de la matière. La matière est très brutale. Parce que c'est quelque chose de très fondamental et qui ne veut pas être oublié et qui se venge quand justement on est trop idéaliste. Alors où la matière va presque disparaître. Pour l'idéalisme, la matière est non-être. Elle n'est pas puissance, pure puissance. Elle est non-être. Alors elle se venge. Et à ce moment-là, on a un phénomène de la quantité qui devient, qui ne peut plus être mesuré. Déborde. Mais quand on parle débordement d'un vase, débordement d'une casserole, c'est un phénomène quantitatif, débordement. C'est la quantité qui l'emporte sur la figure. Donc c'est très important au point de vue philosophique, au point de vue métaphysique, de bien saisir cette harmonie profonde entre matière, quantité, figure. Parce que les trois expriment la forme, sauf la matière. Quand je dis les trois, en réalité, on doit dire les deux. Et la matière, elle s'impose par elle-même. Elle est l'adversaire ou la complice de la substance. C'est notre corps. C'est notre corps dans ce qu'il a de fondamental. Notre corps fondamentalement est matière. Notre corps formellement est quantité. Notre corps finalement est figure.